Chapitre 5. Anna Iona reposait dans le vieux fauteuil couleur bordeaux à l'ombre des pruniers. Ne sachant ce que lui réserverait le jour suivant, elle songeait au petit tracas de la veille. Elle estimait que le noir dont elle avait teint ses cheveux lui allait parfaitement. Sans doute avait-elle mal choisi la saison, car le soleil, qui s'attaquait toujours au noir, lui brûlait le crâne et faisait mûrir la Santa Rosa. Quoi qu'il en soit, elle se félicitait de son acte. Elle avait en horreur la tignasse blanche qui se dressait sur le haut de sa tête comme une pancarte attestant de son vieil âge. Il ne fallait rien ajouter à la nudité chétive qui frappait ses yeux à chaque entrée à la douche. Désormais, elle combattrait la vieillesse à la racine en général et à celle des cheveux en particulier. Elle avait acheté 7 tubes, de quoi noircir toutes les cohortes qui naîtraient pendant les prochains mois. Johanna avait dit « Pas la peine, il y a oxygène dans la couleur, pas bon pour le cerveau. » Anna s'en moquait bien. La dépression aussi, ce n'était pas bon pour la cervelle. Elle n'aurait pas cru effaroucher la petite à ce point. Les enfants aiment le monde où les vieux ont leur âge et les jeunes gardent le leur. Enfin, elle s'habituerait. Heureusement que les filles n'avaient pas fait toute une histoire. Elle avait quand même saisi les signes d'intelligence concernant sa santé mentale. Elle pouvait en échanger autant qu'elle voulait. L'essentiel demeurait que le coloris des cheveux ne pouvait constituer un prétexte pour une mise sous tutelle. Malgré la chaleur de l'air et la moiteur de ses aisselles, elle profitait de l'odeur douce des plantes de la cour en décomposition, des vestiges de prunes noires qui pourrissaient sous les arbres et du bourdonnement sourd des moucherons et autres volatiles moins lourds que l'air qui piquaient en petits points dans l'air chaud. Le lièvre gambadait entre les arbres et rongeait des bouts de concombre et de choux que Johanna avait posés là pour son bien. Infatigable, il se ralliait aux ordres, partait en patrouille entre les buissons et revenait renifler la gamelle. Anna ignorait s'il était jeune ou vieux et quelle était l'espérance de vie des lièvres. Mais ils devaient s'estimer heureux qu'il n'y ait pas chez eux de troisième âge et qu'on ne les enfermait pas dans des ghettos pour vétérans, contrairement aux humains qui, à 70 ans, recevaient une étiquette de produits périmés et de yaourts tournés. Quand on arrivait à 70 ans, la boîte aux lettres se remplissait de vieilles femmes aux cheveux d'or et aux dents d'ivoire qui vous promettaient le paradis dans une résidence protégée. Dans l'autobus, on vous cède la place. Vous ouvrez la bouche, on écoute votre discours avec un murmure d'approbation, si plein de signification que vous n'avez plus qu'une idée, c'est de la fermer. On vous accompagne, on vous soutient le bras avec assiduité et violence calculée. En avant, mes mères! Pas de temps pour toi. Et si vous avez le malheur de vous tromper dans la composition du numéro de votre pédicure, on échangera des coups d'œil complices attestant l'Alzheimer naissant. Dorénavant, on en rechercherait tout signe indicateur et on le découvrirait dans tout bouton de chemise mal agrafé. Mais Anna Iona, elle, ne leur aurait pas donné une telle satisfaction. À elle, cela n'arriverait jamais. Pour plus de sécurité, elle avait adopté l'Alzheimer secrètement et sciemment. Elle avait choisi le crétinisme à titre bénévole et déterminé. À son âge, si l'on voulait rester normal, il fallait jouer la folie. Elle avait pris la camisole de sa propre initiative. En se libérant des règles de la normativité, elle pouvait se permettre toutes les incartades. Le monde entier pouvait aller se faire voir et la laisser pour compte. On pouvait la qualifier de démente ou de débile, l'essentiel était qu'on lui fiche la paix. Elle n'avait pas avoué à ses filles qu'elle avait l'esprit clair comme de l'eau de roche et qu'elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. À quoi bon? Qu'elle continue à la croire timbrée tout en supportant patiemment ses caprices, comme on pactise avec une toux chronique ou des aigreurs d'estomac. Qu'est-ce que tu en penses, Herz? Ça me va, ce noir-là? Elle éclata d'un rire bruyant, comme s'ils étaient tout seuls au monde. Elle se félicitait de sa clairvoyance et de son aptitude à contrôler le volume de ses cris stridents. Tous les sens marchaient encore, et rien ne l'empêchait de jouir des effluves sèches et douces qui montaient de la cour comme un parfum de rose fanée. Elle aspira profondément et pensa « Je ne suis pas toute seule dans cette affaire. Toute la création prend de l'âge, les arbres, les fleurs, les grenouilles, les lièvres, tout. Il n'y a que le genre humain pour en faire toute une histoire. Depuis des millions d'années, les gens naissent et meurent et n'ont pas encore appris ce que les fleurs ont oublié depuis longtemps. Il faut naître, vivre, se dessécher et s'en aller en silence. Les hommes ne comprennent pas que le monde n'est qu'un grand hôtel. On arrive, on paie et on s'en va. C'est un truc à Dieu pour faire de la place aux nouveau-nés. Et il y a des gens qui manifestent et qui proclament qu'ils refusent de quitter la place. Même si on s'appelle Moïse ou le président des États-Unis, rien n'y fera, il faudra plier bagage. Ici, on ne fait pas de réduction. » Elle soupira. Ernst releva la tête de sa gamelle, dressa les oreilles et l'observa. « Viens, viens chez Hannah !» Elle frotta l'index sur le pouce en un léger claquement et laissa échapper un sifflement aguichant. Le lièvre se tint sur une réserve prudente. Il n'alla pas à elle, mais ne retourna pas à son chou. Il attendit une accalmie, cambra le dos et sauta hors de sa portée. Elle étendit le bras et se trouva satisfaite de la sueur qui lui coulait sur le dos. Le corps vivait encore et savait quoi faire quand il avait chaud. Tous les pores s'ouvraient et cette machine de 77 ans ne marchait pas si mal. S'il y avait une chance qu'on l'écoute, elle aurait dit à ses filles « Laissez tomber la carrière, le succès, vivez !» Mais elle s'occupait trop d'elle-même et finirait toute décrépite comme les autres. Simona, par exemple, avait passé un tiers de sa vie à essayer de comprendre le corps. Et quand, enfin, elle avait compris, elle alla travailler au terminus dans une station d'où on ne revenait pas. Pourquoi n'avait-elle pas choisi les nouveau-nés, les accouchés, les soldats, les gens qui pouvaient encore profiter de la vie et courir après les filles, avec un foie insensible au vin et des dents résistantes à l'escalope? Le code génétique de cette jeune femme se portait bien, mais elle arborait le sérieux d'une bonne sœur. La jolie bouche de Simone, si large et si sanguine autrefois, se contractait maintenant comme une élastique de culotte. La chevelure, qui brillait jadis comme une réclame de shampoing, avait déteint sous les néons de l'hôpital. Si jeune et les épaules déjà tombantes, toujours penchées en avant, comme sous le poids de quelques fardeaux. Du matin au soir, l'oreille tendue vers les cœurs âgés et les poumons usagés. Comment expliquer qu'une fille qui avait fait son doctorat à la faculté de médecine la plus sérieuse du pays ait gobé si facilement le coup de la démence maternelle? Quelle valeur accorder à de telles études et quelle confiance donner à sa compétence si elle achetait si facilement tout ce qu'on lui vendait? Et si une personne si éminente était tombée ainsi dans le piège, à plus forte raison, tous les esprits moyens qui peuplaient l'institution en question. Elle faisait pitié. Elle avait l'air si préoccupée ce matin-là. Peut-être un amour déçu, une querelle avec un collègue. Elle avait dégringolé d'en haut, avait regardé un instant, avait dit bonjour et avait détalé, grise comme ce lièvre. À croire que l'approvisionnement mondial en oxygène ne dépendait que d'elle. Hannah avait bien fait de ne pas la cuisiner à propos de ci et de ça. La vieille ne manquait pas de patience et toute la vérité arrivait toujours à elle. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Johanna fit irruption dans la cour, vêtue du tablier de caoutchouc des grands nettoyages. Elle faisait de grands signes de main qui témoignaient d'une grande émotion. Elle tendait un bras derrière elle pour prévenir d'un danger imminent et, de l'autre, invitait Hannah Yon à rentrer le plus vite possible. « Madame Hannah, il y a quelqu'un venir. « Vite, vous, dans chaise roulante !» Mais Hanna Yona ne bougea pas. Elle contemplait l'ombre immense de Johann et pensait. « Que d'ombre ! Qui sait combien de fourmis peuvent se cacher dans cette parcelle obscure ?» Elle n'avait jamais pensé aux fourmis. Elle ne leur avait pas accordé une seconde d'attention, ni d'ailleurs à rien qui ne fût directement relié à sa propre vie. Seuls les enfants et les vieux découvrent l'existence des fourmis. Et Johann n'avait trouvé que le moment de cette découverte fabuleuse pour faire son entrée. « Pas besoin de chaise roulante, Johann. La sécu paie aussi pour une tête siphonnée. » Hanna Yona leva les yeux vers les domiciles des filles au second étage. La maladie d'Alzheimer lui permettait de lorgner impudemment leur vie, de prêter l'oreille aux accidents et aux joies qui marquaient leur existence, et de noter les événements qui les conduisaient tour à tour de la fenêtre au réfrigérateur. Quand elle avait toute sa santé mentale, elle marchait sur la pointe des pieds, n'intervenait jamais, ne posait pas de questions, hésitait à fouiller et les enviait pour toutes les possibilités qui s'ouvraient devant elle. Maintenant, les filles étaient indifférentes à sa présence, ne lui cachaient plus rien et pensaient que le cancéricule que le bon Dieu lui avait envoyé 5 ans auparavant avait fait des dégâts dans la cervelle avant de s'en aller. Quelle sottise ! Ce cancer n'avait été qu'un ballon sonde de l'au-delà et un avertissement avant la coupure finale. L'ange l'avait conduite au bord de la fosse, l'avait poussée et, au dernier moment, avait retiré son bras. Cela avait suffi. D'un coup, toutes les cellules de son corps avaient compris que la vie, c'était ici et maintenant, et qu'il n'y avait pas d'après. Elle ne se refuserait plus rien, ni vêtements, ni vin, ni homme, même ça, ni gâteau au fromage, ni au talon. Elle chanterait, pleurerait, rirait et se moquerait de la politesse et du tact, de la honte et de tout le reste. Elle ferait tout ce qu'elle n'avait osé faire avec Yehoud, tout le superflu, le choquant, l'impudent et l'immoral, et patati et patata. Ah, la morale, berk ! À quelle hauteur s'élèvent les montagnes de la morale qui enterrent les vivants sous elle ? Qu'avait-elle à perdre ? L'honneur ? Le terme la faisait rire. Elle était prête à sortir sur le boulevard et à distribuer ce qu'il en restait. Johann ne comprit pas. « Quoi, tête ? Qui, tête ? Venir à la maison, Madame Hanna !» Mais c'était trop tard. Une nouvelle venue traversait déjà le vestibule et le corps principal. Elle passa de la cuisine à la cour et protégea son front du soleil. Johann se tordait les mains à bon escient. L'intruse était le modèle accompli des représentantes des autorités. Elle portait un pantalon bien propre, une jaquette d'été de bonne coupe et d'une belle élégance, le tout assez sobre. Pourtant, elle portait en bandoulière un sac de cuir dont Johann ignorait le sigle. Elle était élancée, d'âge mûr, elle avait les cheveux coupés courts sur la nuque. Elle était haute de taille, ni grosse ni mince. Elle portait de grosses lunettes de soleil et une bouche fine et sérieuse, comme il sied aux femmes qui occupent un poste de responsabilité. Sous le couvert des pruniers, Hanna Yona observait sa jeune sœur qui luttait contre le soleil. Elle pensait « La dernière fois que j'ai été jalouse d'elle, c'était il y a 5 ans. » La nouvelle venue regarda autour d'elle sans apercevoir la vieille femme cachée entre les pruniers. Soudain, son regard accrocha la main blanche qui s'agitait vers elle et elle entendit Hanna qui l'appelait. « Alors, Tamara !» Elle plissa le front derrière ses lunettes de soleil. Sa bouche s'entr'ouvrit un instant et se referma. Elle se dirigea vers les pruniers. Les feuilles et le gravier craquèrent sous les talons de ses sandales blanches. Elle s'approcha de Hanna Yona. Son ombre recouvrit la vieille, dont le visage s'obscurcit. « C'est affreux, ce noir-là, Hanna. Je ne t'avais pas reconnue. »« Oh, n'exagère pas. Alors, comment va, ma sœur ?»« Ça va, Mais franchement, ce contraste entre le visage et les cheveux, c'est tellement artificiel que c'en est presque pathétique. Tu m'excuseras. J'aime les contrastes. Hanayona riait. C'était bizarre, mais malgré l'ostéoporose, la raideur des membres et l'âge, elle se sentait plus forte et plus dispose que sa jeune sœur. Cette sœur, qui était toujours entre deux voyages dans le vaste monde avec son important mari, connaissait toutes les vitamines et toutes les crèmes qui reposaient sur les étagères de l'univers. Rentrons. Elle n'attendit pas la réponse, se leva du fauteuil de couleur bordeaux et s'adressa à son aide qui se tordait les mains en fixant l'étrangère du regard. Tout va bien, Johan. Cette femme-là, pas police, pas sécurité sociale. Il n'y a pas problème. Hanayona excellait dans la torture de l'hébreu et savait le rendre conforme aux accros linguistiques de Johan. Elle lui toucha la main et prononça. Nous sommes famille, ses sœurs à moi, elles pas venir beaucoup. La dernière fois, tu étais à l'église. Johan passa sa main de sa bouche à ses yeux. Son regard passa les deux sœurs en revue dans l'espoir de trouver un trait commun entre elles. Elle leva la tête au ciel et la baissa à terre comme pour indiquer une différence incommensurable. Tamar scruta la cour du regard, aperçut les hautes grues et déclara « Manquerait plus qu'on te lâche des parpaings sur la tête. C'est dommage, on pourrait faire un jardin magnifique de cette cour. C'est exprès que tu laisses tout ça à l'abandon, comme ça ?»« Cela fait partie des contrastes que j'affectionne. Un appartement bien entretenu et une cour en friche. » Hanayona éclata de rire à la sottise qu'elle venait de prononcer. « Allez, viens, Herz, on rentre. »« Herz ?» La visiteuse était à peine remise de la deuxième surprise que la troisième la câblait à son tour. Donner à la bête la plus stupide du monde le nom du précurseur de l'État d'Israël. On manquait donc de noms sur terre. Il ne restait que celui-là. Les contrastes, Tamara, un nom glorieux à un lapin odieux. La propre subtilité de Hanayona et son ping-pong serré avec sa sœur la portaient aux anges. Cette fois, elle ne se sentait pas inférieure, au contraire. Cette sœur de 62 ans, qui présentait toujours si bien, avait maintenant l'air soupçonneux et anxieux. La vieille dame se demandait quelle image de Hannah il fallait présenter à Tamar, la femme normale et posée, ou la malade mentale et débile. Elle ignorait si la nouvelle de sa démence était arrivée aux oreilles de sa sœur. Elle remarqua les petites rides qui ornaient à présent la lèvre supérieure de Tamar. Cela ne flétrissait pas encore le clair visage et ne gênait toujours pas l'excellente action des crèmes. Mais les yeux de Tamar étaient comme l'eau qui dort. Au lieu de recevoir des crèmes l'éclat de la vie, il semblait vivre pour ses onguents. « Comment vont les filles ?» La visiteuse parcourut encore la cour du regard, comme si elle essayait de ramasser des preuves à conviction. « Très bien !» Hannah prononça ce mensonge sans sourciller. « Quoi ? Qui ? Très bien !» Yardena s'était levée comme une pelote de crin ce matin-là, la veille aussi d'ailleurs, et le jour d'avant encore. Il se passait quelque chose chez elle. Simone avait passé, sérieuse et sévère. Orna s'affairait. Elle devait partir pour un an en Amérique. Location, colocation, délocation, Arizona, Mazette. Elle transportait sa solitude d'Asie en Amérique comme si on l'attendait là-bas. Elle avait acheté un appartement et devait le louer à Simone. C'est de cela qu'elle parlait toutes à côté d'elle, comme si elle était sourde. On ne l'avait consultée en rien, mais elle avait encore de bonnes oreilles, grâce à Dieu. Elle entend, elle sait que un et un font deux, et que ces deux-là veulent s'en aller, et que Yardena n'en demande pas moins depuis longtemps. Le second étage va se vider d'un coup. Rien qu'à la pensée des pigeons qui allaient faire leur nid sur les gouttières, chier partout et roucouler sur les balcons. Et les esprits qui allaient fermer les fenêtres et secouer les stores en sautant d'un appartement à l'autre. Mais Hanna Yona éprouvait de la joie à voir que les choses n'étaient pas stagnantes, qu'il y avait du mouvement, que chaque jour apportait son sac d'événements et, comme on dit, que la chance sourit à ceux qui bougent. Un jour viendrait où les filles referaient leur apparition, un fiancé au bras, et annonceraient « Maman, veuille faire la connaissance de… » « Et comment vont tes fils ?» demanda Hanna, semblant oublier que Tamar avait un garçon et une fille. « De quoi tes fils ? J'ai un fils et une fille, Yoni et Nir. Tu as oublié ?»« Nir ? Ah oui, Nir allait, avec ses jolis yeux. Elle a pris les yeux de la famille et mes filles à moi, la cervelle. » Le visage de Tamar s'embrunit. Hanna comprit qu'elle avait passé les bornes et elle se tut. Johanna déposa sur la table une carafe d'eau fraîche, des quarts de citron et des verres luisants de propreté. Elle retourna à la cuisine et revint, armée d'un plat de melon coupé en morceaux et de serviettes en papier. Elle louchait toujours sur la nouvelle venue, hésitant entre l'étonnement et la crainte. Tamar avalait encore l'affront qui avait séparé les yeux de sa fille de la cervelle de celle de sa sœur, que le nouveau locataire frappait à la porte et faisait rapport d'un bouchon dans l'écoulement d'eau. La bouche tournée vers Madame Hanna et les yeux vers l'étrangère, il ajouta cette dernière au nombre de ses ennemis dès que les lentilles de ses lunettes l'eurent détectée. Elle s'habille comme un agent foncier à la retraite. Ligne sobre, élégante, proprette. Comme si le col à mi-donné et la coupe raide des cheveux se portaient garant de son honnêteté. Ces vieilles renardes vous vendront de la crotte d'oiseau et vous feront croire que c'est du diamant. Elles vous achèteront une propriété unique et vous diront que c'est une vraie ruine. Elles vous achèteront une propriété unique et vous diront que c'est une vraie ruine. Hanna Yona répondit « Appelez un plombier et envoyez-moi la facture. » Il leva la main en signe de refus et déclara « Laissez tomber, c'est pas grave, je paierai. » L'avenue inopinée de la renarde foncière avait chassé la canalisation bouchée de ses pensées et il avait presque oublié pourquoi il était venu. Il lui jeta un regard inquiet et malveillant, se dirigea vers la porte et sortit. Mais ce n'était pas la maison qui avait amené ici la nouvelle venue. Une autre raison l'avait attirée. Assise sur sa chaise, elle se balançait d'une fesse à l'autre et attendait le moment propice. Le locataire sortit, Johanna retirée dans sa cuisine et le lèvre idiot blotti dans le giron de la maîtresse de maison, elle se cala sur un coin de la chaise et déclara « Hanna, il y a quelque chose dont je voudrais t'entretenir. » « Vas-y !» Hanna Yona se plaça sur la défensive. Elle se souvint qu'elle avait choisi la maladie d'Alzheimer pour vivre dans les meilleures conditions possibles. Elle ne coopérerait pas avec des considérations d'ordre archéologique sur le passé et spéculatives sur l'avenir. Il était révolu le temps des regrets, des excuses et de la conscience, fini la nostalgie, les contes, les comparaisons et les projets. Chaque instant de sa vie avait maintenant plein droit à son début et à sa fin. Le moment présent d'abord, puis le prochain, et ainsi de suite. Comme elle ignorait combien de ces instants se tenaient à son crédit dans la banque de la vie, elle prenait son temps, tranche par tranche, chacune ne dépassant pas 60 secondes. Les esquimaux du kiosque avaient tous le même goût. Quand on les mangeait trop vite, ils finissaient plus rapidement. « Yoni, mon fils, il t'a vu l'autre nuit dans un pub. » Tamar s'extirpa d'un coup du bord de la chaise et s'adossa sans plonger profondément dans le coussin. « C'est pas vrai. Il était là et il n'est pas venu me dire bonjour. »« Il n'a pas osé. Tu étais en compagnie de deux jeunes gens et tu semblais complètement ivre. »« C'est une raison pour ne pas dire bonjour à sa tante ?» Anna Iona embrassa le lièvre sur le museau et répliqua. Des jeunes gens ? Ernst a passé la soixantaine depuis longtemps et Klein ne va pas tarder non plus. Tamara se pencha sur elle et voulut lui saisir les mains, mais se ravisa. Anna, il te manque sans doute une vitamine utile au bon fonctionnement du cerveau, peut-être du fer ou autre chose. Ce n'est sûrement pas bien grave, mais tu devrais voir un médecin. Anna Iona remarqua les gouttes de sueur qui commençaient à perler sur le front de Tamara. Elle regrettait les efforts inutiles que déployait sa sœur. Il y a tellement de choses que je n'ai pas encore vues sur Terre. Alors vraiment, un médecin. Ses doigts lissaient la fourrure du lièvre. Elle l'éleva à la hauteur de son cou et posa le menton sur le crâne chaud de la bête. « Nous n'avons pas besoin d'aucun médecin, n'est-ce pas, Ernst ?» Elle le secoua. L'autre dressa les oreilles et les laissa retomber. Anna aimait à se mouvoir sur le fil périlleux tendu entre le normal et l'incohérent. La froide amabilité qui avait toujours caractérisé leur relation ne justifiait pas la sincérité et la franchise. Elles n'avaient jamais été bien proches l'une de l'autre. Les visites réciproques avaient été rares. Ajoutez à cela les différences d'âge, de fortune et de maintien. La lucidité serait toujours sa dernière arme. Elle ne s'en servirait que comme ultime ressource quand les bougres du ministère de la Santé viendraient lui passer les menottes et l'emmener dans quelque maison de fous ou de repos. La ride s'approfondissait au haut du nez de Tamara et brisait la symétrie de ses sourcils épilés. La jeune sœur de Anna était toujours plus belle et plus parfaite qu'elle. Ce cadeau tardif qu'avait accordé le ciel à leurs parents les avait dédommagés de la petite Anna qui avait 15 ans de plus et montrait de la médiocrité en tout. L'éclair qui avait oublié l'aîné avait illuminé la cadette. Elle réussissait dans les études, elle dansait à la perfection, savait s'habiller et se maria à son avantage. Anna Iona épousa un fonctionnaire au service de l'impôt sur le revenu qui portait des chemises grises à pochettes. Il avait à sa disposition une chaise et une table munies d'une cavité destinée à recevoir la tasse de thé. Tamara prit Ephraim pour mari. Il devint bientôt Efi, un ponte du ministère de la Défense. Cet homme, élancé et imposant, s'accompagnait d'une nuée de mystère le jour et d'une colonne de secrets la nuit. Elle l'avait accompagné à Paris, à Rome et dans des endroits anonymes. Ils en rapportaient toujours un anglais volubile, des parfums et des histoires à dormir debout. À peine rentré, il repartait déjà. « Et Anna ?» Elle allait avec son « Heyoud » au marché de Mahane Yehoud et revenait avec du persil, des tomates et des poulets égorgés. Elle aurait donné beaucoup pour qu'il revienne à elle avec ses chemises grises et qu'ils retournent tous les deux au marché avec les paniers, le persil et tout le reste. Dans la nouvelle vie qu'elle s'est composée, elle n'oblige pas les morts à sortir de la tombe et il n'y aura plus de place pour les comparaisons. Le passé était révolu. Il restait maintenant d'un côté la chaleur du lièvre sur son sein et de l'autre la ride entre les sourcils de Tamara et le triste point d'ombre intermittent dans son regard. Anna avait pitié de sa sœur. Elle observa la sobre élégance de sa personne, le noble ajusté des cuisses jointes et des jambes posées de côté, les genoux serrés. Elle était encore belle, mais une beauté grisonnante et coagulée. La lumière jaune qui filtrait par la dentelle des rideaux traçait une ligne d'or sur la tête de Tamara. La chevelure était encore abondante et brillante. Le temps se montrait clément à son égard et apportait le déclin petit à petit. Anna pensait que cette miséricorde travaillait pourtant contre sa sœur. Il eût mieux valu que la vieillesse arrivât d'un seul coup. Tamara se serait évadée de sa prison dorée et elle aurait découvert que la vieillesse n'apportait aucun réconfort, si ce n'est le sentiment libérateur qu'on n'a plus rien à perdre. Elle la contempla encore. Tamara ne pourrait supporter une vieillesse traînante en longueur. Elle s'attristait à la vue de sa sœur cadette, prisonnière de sa vie bien proprette. Elle se viderait lentement et se dessécherait sous ses épluchures soignées, ses beaux vêtements, ses parfums et ses onguents. Elle deviendrait dure et amère, et F. y perdrait patience, que Dieu préserve. Malgré le gouffre que le temps et la fortune avaient ouvert entre elles, le pitoyable avenir réservé à Tamar eut pour effet de renforcer Hanayon. Elle voulait pleurer, mais elle préféra employer les mots « Tamara, même si cela t'étonne, je n'ai jamais été aussi lucide. » Le son de sa voix était si sérieux que Johanna sortit de la cuisine avec le sentiment que quelque chose de fatal venait d'arriver. « Écoute-moi bien, Tamara. Il n'y a pas de limite à ce que peut se permettre l'idiot du village. On lui pardonne tout. » La bouche fine de Tamar s'entr'ouvrit et ses lèvres demeurèrent disjointes. Hanayon se sentit encouragée à continuer. « Il n'est pas nécessaire de naître idiot. On peut se lever le matin et décider de le devenir. Nous vivons dans un pays libre. Tout individu a le droit de renoncer à sa bonne santé mentale, si tu me comprends. » La terre avait cependant fait son chemin et croisait maintenant obliquement les rayons du soleil. La chevelure teinte de Tamara prit des reflets nouveaux et une lueur de cuivre rouge couvrit son front. Elle éclata de rire, mais d'un rire contenu à l'intérieur de sa bouche. « Tu veux dire que tu te lèves le matin et que tu joues à l'inepte et à la dégénérée pour aller t'amuser dans les pubs avec des poivrons? Tu trompes tes filles? Tu joues à l'ivrogne invétéré? Tu sais, j'en ai vu des choses dans ma vie. Mais alors, ça, quelqu'un qui se porte volontaire au siphon? Mais qu'est-ce que tu y gagnes ?» Hanna s'étonna du vocabulaire limité de sa sœur, où le terme « débile » figurait en bonne place. Tout à coup, elle s'effraya de sa propre légèreté. Qu'y avait-il de si urgent à découvrir son jeu? Sa sœur allait propager la nouvelle et raconter à tout un chacun que tout ce tapage s'était du chiquet et que la vieille avait découvert ses propres talents dramatiques. Dès lors, on ne lui pardonnerait plus rien et toutes les libertés si durement gagnées seraient abrogées. Il faudrait s'habiller en marron et en noir, renoncer au pub la nuit et au rouge à lèvres le jour, se garder des hommes et du vin et peser chaque parole. Pas une seconde à perdre. Tamara devait croire que la dernière phrase était le fruit d'un moment éphémère d'équilibre mental et que la démence n'avait pas fait faux bond. « Erst, descends de là !» Hanayona se débarrassa du lièvre et ouvrit tous les boutons de sa robe, tira les bras de ses manches et laissa retomber sur le bas de son dos et de son ventre la partie supérieure du vêtement. Il ne restait sur elle qu'une combinaison noire transparente, trop large pour elle, qui laissait apparaître sa nudité. Tamara détourna le regard et ferma les yeux. Puis elle les rouvrit pour s'assurer qu'elle avait bien vu. Apparemment, elle n'avait pas l'habitude de voir des gens nus sans un appareil de parfum et d'onguents protecteurs. Elle chercha des yeux un objet quelconque, une poignée de porte, une lampe au plafond, un rideau où accrocher son regard. Mais celui-ci revenait toujours à la chair blanche de sa sœur, à la peau fine, aux veines saillantes, au réseau de l'irrigation sanguine qui partait du cou, aux deux seins vides et plats, aux aisselles claires, aux poils parsemés. Elle comprit la situation honteuse qui attend toute femme et sortit de ses gonds. « Hanna, qu'est-ce qui t'arrive? Habille-toi !» Johanna surgit à nouveau de la cuisine. « Que madame Hanna fait du striptease, pas le douche, c'est le salon !» Johanna essaya de relever le vêtement, mais sa maîtresse l'attrapa par les mains en la semonçant. « Enlève tes pattes, Johanna. J'ai chaud, je veux de l'air pour mon corps !» La Roumaine lâcha la robe, mais ne céda pas. Elle essaya par la menace et par la douceur. « Madame Hanna, pas jolie comme ça s'asseoir. Les bébés qui s'asseoir sans les vêtements !» Tamara, prostrée sur sa chaise, recroquevillait tous ses membres de crainte d'attraper le microbe communicateur de la vieillesse, du démoëlage des os et de la chute des cheveux. La frayeur qu'il avait gagnée n'échappa pas à Hanayona, qui décida de continuer sa comédie et de faire triompher l'Alzheimer. Elle se leva et laissa tomber la robe, découvrant entièrement la nudité de la partie inférieure de son corps. À la vue de la culotte flasque et des membres décharnés, Tamara se mit un poing dans la bouche. « Annale, ça suffit comme ça! Sois gentille! Annale, habille-toi !» Hanayona contempla sa nudité qui se reflétait dans la vitrine de la vaisselle des grands jours et se déformait entre les vieilles assiettes de porcelaine aussi blanches qu'elle. Cette appellation douce et enfantine qui était sortie de la bouche de Tamara lui avait fait bien du plaisir. Hanale. Depuis l'âge de 4 ans, personne ne l'avait appelée comme ça. Comme elle désirait encore un peu de cette affection rétrospective, elle se laissa aller à exploiter l'avantage acquis et à obtenir un ou deux Hanale de plus. Elle se baissa, ramassa sa robe et se lança dans une ronde triomphale autour de la table ovale du salon. La combinaison semblait une banderole enveloppant sa nudité. Elle faisait tourner la robe au-dessus de sa tête comme la hache de guerre qui devait lui assurer la liberté. Johanna se planta devant elle. Elle posa une main puissante et douce sur son épaule, la prit par la taille de l'autre et la poussa de force vers une chaise. « Madame Hanna, voulez-vous une autre robe? Chaud? Voulez air condition? Je veux comme ça !» Après cette déclaration, Hanayona respira lourdement et saisit la robe à deux mains. Elle remarqua que Tamara se levait, sortait son portable de son sac, se rendait à la cuisine et se cachait près du réfrigérateur dont le bruit couvrit celui de sa conversation. Elle ignorait si sa sœur appelait la police, une ambulance ou le psychiatre régional, ou bien si elle prenait rendez-vous pour un examen cardiaque après les chocs reçus pendant la dernière heure. Le trait de lumière perça les rideaux, dansa sur les fleurs de soie qui ornaient les bords de la combinaison et lui réchauffa le sternum. Elle se réjouit du léger vertige produit par le délicat contraste entre la pénombre fraîche de l'intérieur et la chaude lumière du dehors. Elle s'appuya de tout son long sur le dossier de la chaise en disant « Par la grâce divine !» Elle arracha une rose fanée du bouquet qui moisissait dans un vase et se la planta dans ses cheveux noirs. Johanna, debout près d'elle, tenait le siège de ses mains puissantes, prête à toute éventualité. Hanayona était ravie. Elle ne s'était jamais tant moquée des conventions. Elle n'avait jamais si bien exprimé son mépris de ce que les gens interdisaient ou permettaient. Comme si une vieille dame en combinaison, c'était pire qu'une bombe atomique iranienne menaçant la paix mondiale. Non, vraiment, il y avait-il là de quoi anéantir tout le Moyen-Orient ? Cette combinaison se cachait dans l'armoire depuis 40 ans et elle survivrait encore bien après Hanna, à condition que les filles ne vident le meuble pour en brûler le contenu. Avec ou sans combinaison, le monde continuerait à tourner. Les gens naîtraient et mouraient, les Johanna quitteraient leur pays pour chercher leur gagne-pain et les vieux seraient toujours menés à l'asile du troisième âge. Hanna attira Johanna à elle et lui fit signe de se pencher. « Je suis tout en ordre, Johanna !» lui dit-elle en sentant l'odeur de cuisine qui s'exhalait de son aide. Elle fut heureuse qu'il y ait du potage au cumin à midi. « Tout en ordre, Johanna! Tout maintenant, c'est drame juste pour ma sœur. Tu comprends, Johanna? Je suis 100% en ordre. La tête, pas tralala du tout. C'est théâtre pour Tamara, tu comprends ?» Johanna se redressa, posa la main sur son large cœur et remercia son Dieu mort en croix. Elle frappa sur l'épaule de Hanayona et toussa fortement tout en riant. Mais ce rire ne dura guère et cessa de lui-même. Courbée sur son ordinateur dans la salle des médecins, Simone a planté les dents dans un petit pain quand le téléphone sonna. « Simone, ta mère fait un accès psychotique. Amène-toi vite !» Simone a reconnu la voix tout de suite. D'où sortait donc cette tante rarissime? Et depuis quand était-elle experte en diagnostic psychiatrique? Elle jeta le reste du petit pain à la poubelle et ses doigts coururent sur le clavier du téléphone pour demander sa mère. Johan a répondu. « Un moment. Madame Hanna, le téléphone pour vous. » « Comment ça va, maman ?» Le ton était concis. Simone n'en avait que peu de temps. Il n'y avait sans doute pas péril dans la demeure. L'état de la démence, encore moyennement développé, ne devait pas causer de drames fracassants. Tout va très bien. Hanna Yona savait que trois femmes étaient suspendues à ses lèvres et qu'il fallait trouver l'équilibre exact entre la folie et la raison. Elle ajouta. Je me promène en combinaison et elles font du tapage comme si j'avais tué quelqu'un. Qui ça, elle ? Mon aide et ma sœur. Dis-moi, Simone, quel article de la loi israélienne interdit les gens de se promener en combinaison ? Toi, tu es médecin des vieux, n'est-ce pas ? Et tu sais très bien que le conditionnement d'air, ça donne la bronchite. Alors, quel mal il y a si je me promène en combinaison au lieu d'allumer la clim ? Tu as raison, maman. Si ça t'est égal qu'on te voit tout, eh bien reste comme ça, c'est ton droit. Oh, il n'y a pas grand-chose à voir. Même quand j'étais jeune, il n'y avait pas de quoi écarquiller les yeux. Alors, aujourd'hui... Hanna Yona éclata de rire. Elle ne savait si le silence glacé de Simone provenait de son accord ou de quelque autre raison personnelle. Elle attendit une répartie qui n'arriva pas. Elle colla l'oreille au récepteur et écouta le silence. Quelque chose de profond bougea sous son sein gauche, au-dessus du cœur, peut-être au-dessous. Cette boule de silence pesait à peine 3 kilos en sortant entre ses jambes. Elle avait rapidement creusé entre elles un écart qui n'avait fait que croître. On eût dit que le scalpel qui avait séparé ces deux corps avait en même temps éloigné à jamais ces deux âmes. Le lièvre s'approcha et frotta sa fourrure contre ses jambes. Elle le ramassa d'une main, l'autre tenant toujours le récepteur. « Tu as le bonjour d'Erz. Ce petit-là, il a de l'affection pour ma combinaison. Tu verrais comme il frétille au contact de ce chiffon de soie. Quel plaisir !» Le téléphone demeurait muet. Simone n'en était plus en ligne. Elle reposa l'appareil sur sa base et s'assit, en combinaison, le lièvre dans son giron. Tamara se leva, constata que le dialogue était impossible, hocha la tête de gauche à droite et déclara. « C'est terrible ! Je ne pensais pas que c'était à ce point !» Elle ajusta ses vêtements, ramassa son sac, prononça un furtif « au revoir » et sortit. La porte se referma derrière elle. Hanna Yona remit sa robe, reposa le lièvre sur son giron et s'étonna de ne se trouver ni joyeuse ni triste. Son cœur battait calmement et régulièrement, comme une pendule bien réglée. Elle craignait que la démence ne devienne un état de fait. Elle se sentait vide de compassion et de sympathie. Pourquoi n'était-elle pas jalouse et pourquoi n'en voulait-elle pas à sa sœur de cette intervention brutale ? Qu'elle soit là ou non, cela lui était bien égal. Elle était indifférente et vide, comme un sachet d'emballage. Comment son cœur, qui était autrefois tout torrent et fleuve, tout monts et collines, était-il devenu une plaine désertique et aride ? Quel malheur si le choix de l'ineptie amenait avec lui la terre brûlée ! Elle prit peur et s'empressa d'examiner la mémoire. Les mains sur les tempes, elle extirpa des plis de son cerveau le numéro de téléphone de Yardena, d'Orna et de Simone, et le sien à elle. Les chiffres roulaient de sa bouche et se poursuivaient comme les perles d'un collier au fil coupé. Il n'y eut ni accroc ni repos. Bon, va pour la mémoire et la tête. Mais elle avait aussi une âme. Comment examine-t-on l'âme ? Elle l'ignorait. elle décida de chercher s'il y avait au monde quelque chose qui puisse encore l'émouvoir. Si quelqu'un avait eu ou est encore une place prépondérante dans sa conscience, dans le passé ou le présent, c'était bien Yehuda, son mari. Elle s'attendait à de la nostalgie, de la colère ou de la douleur. De toutes les journées entières et cassées qu'ils avaient passées ensemble, elle s'étonna de ne trouver dans son cerveau qu'un seul jour de vacances qu'il avait pris pour l'emmener à la plage de Tel Aviv. Mon Dieu, quelle journée ! Tout lui revint d'un coup. Yehuda était assis sur son mouchoir, les genoux serrés au corps, les mains dessus, le derrière ajusté aux proportions du carré de tissu, et tout en lui était étranger au sable. Il était tout habillé et n'avait pas même ôté ses souliers. Boutonné et renfermé, il siégeait devant l'immensité de l'eau et se taisait. Elle allait éclater. « Mais qu'est-ce que tu as ? Enlève tes chaussures au moins ! Touche le sable du pied ! Regarde de quoi tu es fait !» Mais plus encore que les chaussures et le mouchoir, autre chose la rendait folle. Comment cette mère qui lui retournait les viscères, forçait en elle tous les barrages et inondait toute sa personne, le rendait, lui, hermétiquement clos. Elle s'était jetée sur les souliers dont elle avait ouvert les lacets, mais il l'avait repoussée en protestant. Puis il s'était penché et avait relassé les chaussures. Il avait mis un soin tout particulier à la symétrie des boucles. Puis il avait remis en place les chevilles, les jarrets et les genoux, avait contemplé le résultat avec satisfaction et était retourné à son silence. Elle n'avait pas de maillot de bain et portait une petite robe d'été beige à fleurs pâles. Elle avait jeté ses sandales et dénoué ses cheveux, et elle était assise là, à ses côtés, sous le vent. Elle était furieuse de ne pouvoir se livrer à son plaisir tant que ce sphinx resterait comme ça, à sa droite, fermé à la mer, comme si cette dernière l'avait nommée, elle, pour lui faire justice à lui. Elle le méprisait. Pour qu'il osât toucher l'eau, la mer aurait dû rejeter sur le rivage des rapports de taxation, des déclarations de fortune et des carnets de factures. Alors, seulement, il aurait ouvert les mains et ôté ses chaussures, et il aurait couru à l'eau pour ramasser toute cette paperasse sans rien perdre. Toutes ces années passées au service des impôts avaient forcé les cellules de son cerveau à se mettre en ligne et en colonne. La mer, elle, ne montrait aucune ligne droite et ne formait aucune case où Yehuda eût pu se réfugier. Qu'aurait-il pu faire d'un contribuable indépendant aux données instables, perdu entre le haut et le bas de la marée et déplaçant à tout moment des tonnes d'eau de la colonne des profits à celle des pertes et vice-versa, et tout cela avec un flot de liquides intarissables? La colère de Hannah avait monté de seconde en seconde jusqu'à lui inspirer de la haine pour cet homme qui fouillait constamment dans la poche des autres pour en évaluer le taux d'imposition. À ce moment, elle avait oublié que cette seule activité lui permettait à elle d'acheter du pain à l'épicerie et des poulets au marché. Les papiers qu'il occupait lui apportaient son salaire qui passait de là aux légumiers, aux cordonniers et aux bouchers. Cette colère lui avait caché aussi les bons moments qu'elle avait eus, pas tous les jours, mais parfois quand même. La chaleur l'avait accablée. Elle avait réuni sa chevelure et l'avait renouée avec un élastique. Puis, elle l'avait encore libérée, elle avait planté les orteils dans le sable, gratté des ongles et tenu ses coudes de peur qu'il ne s'échappe vers les côtes de son mari et ne l'oblige à ouvrir les yeux, à sortir des limites du mouchoir, à se secouer la tête, à s'évader de lui-même et à s'émouvoir. Elle avait senti la colère monter contre elle-même, contre lui et contre la vie qui avait déjà été vécue et ne reviendrait pas. Dans cette colère croissante, l'attitude renfermée de Yehuda avait passé du stade de l'incident local à celui du symbole, celui de leur incompatibilité d'humeur. Elle avait reflété le contraste entre l'âme romanesque et tempétueuse de Hannah et l'esprit pondéré et dur de son mari, si jaloux du connu et du quotidien et de tout ce qui se répète. elle avait oublié que c'était justement pour cette raison qu'elle s'était éprise de lui. Elle l'avait rencontré un jour où elle avait été prise au milieu d'une rixe. Des gens entouraient un arabe qui avait un couteau dans ses affaires. Il voulait le lyncher, il crachait et jurait. Quelqu'un lui avait enfoncé un poing dans les côtes et le tenait couché par terre, et les autres le piétinaient avec fureur. Un homme avait surgi d'une papeterie et criait aux assaillants « Vous êtes fous ?» Il s'était frayé un chemin et d'un ton sec et ferme proféré « Laissez-le, pour ça, il y a une police !» Il n'avait l'air ni robuste ni menaçant, mais l'assurance de la voix impérieuse et le regard clair lancé obligèrent la foule vengeresse à reculer. Il se tenait debout au-dessus de l'homme et tenait les autres en respect de son regard perçant, forçant les uns à la honte et les autres à l'indécision jusqu'à l'arrivée de la police. Elle avait observé la scène de côté et avait pensé « Avec un type comme ça, j'aimerais bien me marier ». Elle s'était dirigée vers lui et, lui serrant la main, avait dit « Bravo, je m'appelle Hannah ». Il avait répondu « Yehuda, enchanté ». Elle avait proposé qu'on aille boire quelque chose pour se remettre. Il avait répliqué « Je me sens très bien, mais n'importe ». Elle avait commandé un café crème et lui un expresso. Le café suivant, il avait pris dans son appartement de garçon. Mais, au bord de l'eau, elle ne s'était pas souvenue de cette stabilité qui l'avait séduite. Ses yeux avaient passé de son mari à la mer et son sang bouillait. Un gros chien noir avait fait son apparition au bord de l'eau. Il traînait derrière lui une laisse qui pendait de son collier et creusait un sillon dans le sable humide. Hannah Yona avait cherché le maître des yeux, mais n'avait vu personne, soit qu'il attendît, soit qu'il soit encore en route. Le chien allait tout seul, reniflant et goûtant l'écume et les algues qu'apportait la vague. Il allait et venait, faisait 50 pas au galop, puis revenait, se campait sur ses pattes, secouait le cou, courbait l'échine et tirait la langue. Les vagues se brisaient devant lui et se retiraient. Un vieil homme arriva, coiffé d'un chapeau au bord vert, le torse nu et les sandales à la main. Il s'adressa au chien. « Itché, viens, on s'en va !» Il passa devant l'animal, mais la laisse ne se mit pas en mouvement. Le chien resta planté là, alors que l'eau recouvrait l'empreinte des pas de son maître. L'homme cria encore. « Itché, Itché, alors Itché !» La voix s'estompait dans le fracas de la mer. Le chien tendait la tête vers l'homme et mesurait la distance qui les séparait. Il regarda, serra les dents, releva la tête et observa à nouveau le dos qui s'éloignait. Hannah Yona ignorait la portée de la vue et de l'ouïe des chiens, mais elle estima que la limite en avait été atteinte car le chien se retourna et se dirigea vers la mer. Les pattes arrière tendues, les oreilles en bataille, il aboya si fortement qu'il semblait émettre d'un seul coup tous les aboiements que la nature lui avait accordés de sa naissance à sa mort. Ce cri voulait dire « maintenant ou jamais ». C'était le cri du chien qui se lève sur ses pattes pour la première fois et, à peine est-il né, on lui crie « Itché, viens ! Itché, va-t'en ! Itché, attrape ! Itché, couché !» Et maintenant, il prenait sa vengeance, plantait les crocs dans la liberté et se fichait pas mal d'où viendrait la prochaine portion de bonze. Les aboiements allaient croissant et semblaient planer sur la face des eaux. Hannah sentait que la mer tout entière se gonflait de la voix du chien et du fracas des vagues. Elle se leva, quitta l'abri, passa devant le chien et entra dans l'eau tout habillée. Sa robe était trempée et s'alourdissait, mais elle-même se sentait de plus en plus légère. Elle s'enfonça plus profondément et alla à la dérive vers le nord comme un morceau de bois, au point de disparaître à la vue de l'homme fossilisé sur son mouchoir. Le chien devint un petit point noir brillant. La mer avalait le son des aboiements et de son rire et de ses cris à elle. « Itché, c'est Itché, et moi je suis moi-même, et Yehuda, ce sera toujours Yehuda. Chacun sa vie. » Elle s'écria encore. « Mon Dieu, je n'en ai rien à foutre, et qu'ils aillent tous au diable !» Les mots et les rires s'entrechoquaient et prenaient le goût du sel que sa bouche recevait et recrachait tour à tour. Elle ne voyait déjà plus la cabane où gisait Yehuda, prostré, faisant bonne garde sur son sac et ses sandales. Devant elle apparaissaient maintenant des cabanons ronds aux toits plats couverts de paille. Des gens bronzaient leurs membres au bord de l'eau. Elle flottait, le visage au ciel, et chantait « Je m'appelle Itché !» sur l'air des lampions. « Je m'appelle Itché ! Appelez-moi Itché ! Ô bois, dansons, dansons !» Elle chantait, et tous ses membres chantaient avec elle. Tout son être était chant et eau, comme un nourrisson dans sa baignoire qui n'a ni hier ni demain. Le sel desséchait sa gorge. Les doigts se tordaient et la peau se tendait et devenait rugueuse. Sa robe se gonflait et se vidait et sa chevelure était lourde de sel. Elle se débattit et mit le cap sur le rivage comme une algue à la dérive. Elle nageait, se redressait, flottait, repartait, titubait, se relevait et finalement posa un pied exténué sur le sable sec sur lequel elle se coucha. Elle sentit l'immense firmament qui descendait en son honneur et la recouvrait de ses ailes. Elle ne voyait plus que l'azur. Ainsi blottie dans le bleu infini, elle perçut la voix des gens qui l'entouraient. « Elle a dû s'évanouir. Elle s'est noyée. Appelez une ambulance. Encore une qui ne sait pas nager. » Elle ouvrit les yeux. On s'écarta. Quelqu'un dit « Mamma mia! Quels yeux! Trop bleus! Jamais vu ça de ma vie !» Couchée sur le sable, elle ouvrit la bouche pour rire, mais il en sortit quelque chose comme un sanglot. Elle respira profondément, se releva sur un coude et proféra. « Bande d'idiots! Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez jamais vu quelqu'un heureux ?» Ils reculèrent. Certains riaient et disaient « Elle est saoule! Quelle crétine! Quelle timbrée !» Une jeune femme les réprimanda. « Elle a raison! Qu'est-ce qu'il y a? Enfin quelqu'un d'heureux dans ce pays !» Le cercle des badauds s'élargit et tous s'éloignèrent. Le bleu aussi. Elle se leva et secoua sa robe et ses cheveux du sable qui les couvrait. Elle respirait lourdement comme un sprinteur sur la ligne d'arrivée, à bout de force mais heureux. Elle ne se souvenait ni de Yehuda, ni de l'impôt sur le revenu, ni de son propre nom à elle. Son cerveau avait été comme lessivé et il demeurait vide et propre. Le premier être qui revint à sa mémoire fut le chien. Elle porta la main en forme de conque à son oreille et écouta les voix. Mais, au lieu des aboiements, elle perçut seulement le son d'un haut-parleur au loin. Elle s'étonna de trouver à sa droite la cabane du sauveteur qu'elle avait laissée à sa gauche. Les voix l'atteignaient, tronquées et affaiblies. Elle se dirigea vers le sud, là où le chien se tenait et avalait ses croquettes de liberté. Il lui semblait avoir entendu son nom au loin et elle marcha dans la direction de cet écho. Elle avait froid aux pieds. La robe trempée lui pesait, mais elle se sentait légère, comme dénuée de poids. Et plus elle avançait, plus elle entendait le nom de Hannah qui s'échappait du fracas de l'eau et de la multitude humaine. Puis le nom, Yona, se détacha du cri strident des mouettes et des appels des baigneurs. Enfin, elle perçut l'expression « et priez de passer à la cabane de sauvetage ». La baigneuse Hannah Yona est priée de s'adresser. Les mots tombèrent d'un coup sur sa tête et avec eux le sac de toute sa vie et elle reprit conscience de tout. Et ce tout, c'était avant tout Yehuda. C'était bien lui qui avait ameuté la compagnie. Elle avait les pieds lourds. Elle se traîna dans la direction des voies. Elle l'aperçut à côté du cabanon, paniqué, boutonné, les pieds joints, le sac au dessin fleuri sur l'épaule et les sandales tremblantes à la main. Il était pâle et levait les yeux sur la cabane. En même temps que le maître nageur, il marmottait comme dans une prière « La baigneuse Hanayona est priée !» Elle ne l'avait jamais vue si pitoyable et si désemparée. Elle pensait « Où sont passés la stabilité et le calme ? Vraiment, il doit bien m'aimer, cet homme-là. Le pauvre, il se trouve pris dans une affaire qui n'a pas sa case à elle et qu'on ne peut pas cocher sur la ligne. » Elle resta là un moment, les orteils plantés dans le sable. L'idée de faire comme Ichi la séduisit un moment et elle pensa se faire abandonner. Mais Ichi, c'était un chien et les humains ne peuvent pas se permettre le quart de ce qu'un chien peut s'offrir. Elle cria « Yehuda !» Mais le sel avait rendu sa gorge rugueuse et le cri demeura comme étouffé, pareil à un aboiement. Il releva le menton et sa tête pivota autour de son cou. Il la cherchait des yeux, scrutait l'immensité, mais ne la voyait pas. Elle l'appela à nouveau par son nom. Cette fois, le « Yehuda » qui se fit entendre avait une sonorité quotidienne et claire, comme si elle avait déclaré « Yehuda, viens manger, le potage refroidit !»« Yehuda, éteins le chauffe-eau !» Elle s'approcha du cabanon des maîtres nageurs, monta deux échelons et annonça « C'est moi, Hana! Arrêtez de brailler comme ça !»«
À la bonne heure !»
Le responsable montra Yehuda du doigt. « Il a failli en crever, celui-là. Il croyait que vous vous étiez suicidé. » Il se pencha sur le garde-fou et les contempla tour à tour. « Alors, monsieur, vous pensiez qu'elle était hors course, que vous alliez la retrouver à la morgue? Vous êtes marrants, vous autres !» Il riait de bon cœur. Le gros collier de métal qui lui pendait au cou faisait entendre des cliquetis saccadés. Yehuda ne lui dit rien. Il posa doucement les sandales de Hana sur le sable. Elle y passa les pieds et ne noua pas les sangles, puis ils remontèrent en silence, lui avec ses souliers bien lacés et elle avec ses sandales ouvertes. Ils quittèrent la plage pour la station d'autobus, mais au bout de 20 mètres, elle dit « Il faut que je m'asseye, je n'en peux plus !» Il hésita à la soutenir par le bras. Il la saisit à la taille et, voyant qu'elle ne résistait pas, il la serra plus fort et l'emmena jusqu'à la station. « Pourquoi es-tu parti? Qu'est-ce que je t'ai fait ? » demanda-t-il calmement. Il joignit à nouveau les pieds, reprenant son attitude de parfait percepteur d'impôts, et elle allait exploser encore une fois. « C'est pas toi qui m'as fait, c'est moi qui m'ai fait à moi-même !» Elle recroquevilla tous ses membres sur elle. Elle avait froid et sa peau tremblait sous le vêtement mouillé. Elle n'avait pas envie de se disputer ni de discuter le sujet. Cela aurait eu l'odeur d'un plat brûlé au fond d'une casserole. À quoi bon s'éterniser sur un repas calciné? On nettoie et on continue. Ils s'attardaient rarement à débattre des vexations et des désagréments de leur vie commune et ils n'avaient pas développé l'analyse mutuelle et l'art de la constatation. En cas d'incident, ils n'échangeaient que les paroles nécessaires. « Où est le sel ? Il faut payer l'électricité. » Puis les odeurs toxiques se dissipaient et la vie continuait. Elle avait appris à ne pas fouiller dans la fange et à ne rien ensevelir au fond de l'âme. Cela était comme pour tous les deux. On pouvait avancer ainsi en terrain découvert, plat et ennuyeux. Et maintenant, après des années de calme plat, il demandait « Pourquoi es-tu parti ?» Elle se sentait trop fatiguée pour pouvoir s'expliquer. « Pourquoi je suis parti ? Parce que j'en avais ma claque d'être coincée avec un robot du fisc, avec un type qui vient à la mer et se gèle le cul sur un mouchoir, de peur que le sable et l'eau ne le touchent. Pourquoi je suis partie? Parce que des navets, il y en a plein au marché. » Elle regardait les crêtes d'or qui dansaient sur les vagues et ne parvenait pas à arrêter la cascade des mots qui déferlait de sa bouche. Mais lorsqu'elle tourna la tête vers lui, elle paniqua. Il semblait pétrifié, le visage fermé et tendu, comme dans l'attente du prochain coup de fouet.
« Qu'est-ce qu'il y a, Yehuda? Tu ne te sens pas bien ?»
Elle voulut lui prendre la main, mais se ravisa.
« Je souffre. »«
De quoi ?»«
De chaque seconde passée encore ici. J'ai la mer en horreur. »
Il enchevêtra les mains et fit craquer les os. En une seconde, le bouchon qui fermait tout son être sauta. Dans une rafale ininterrompue de paroles, il exposa devant elle tout un chapitre de sa vie qu'il avait toujours résumé en une phrase laconique « Mon petit frère est mort en bas âge ». Elle avait toujours pensé qu'il s'agissait d'une mort au berceau ou d'une méningite. Les yeux braqués sur la mer et pressé d'en finir le plus vite possible, il débita. « J'avais 9 ans. Notre mère nous emmena à la mer, Yossi et moi. Il avait 3 ans et demi. Ma mère est allée aux toilettes et je devais veiller sur Yossi. Mais la mer envahit le canal qu'il avait creusé dans le sable. Et pendant que je bouchais le canal, Yossi entrait dans l'eau. Les maîtres nageurs l'ont retiré tout gonflé et sans connaissance. On a pratiqué la réanimation, une ambulance est arrivée et je ne l'ai jamais revu depuis. On me raconta que Yossi était devenu légume. On ne donna aucune explication et on n'en parla plus à la maison. Je n'avais que 9 ans. Je croyais que Yossi était mort et qu'on l'avait mis en terre comme une plante. Et puis après, j'ai fait des problèmes auditifs. On m'a emmené chez un spécialiste, mais on ne trouva rien. Le médecin expliqua qu'il s'agissait d'une surdité psychosomatique. Il ne demanda pas ce que signifiait cette expression bizarre. Je n'ai pas raconté au médecin que les hurlements de ma mère au bord de la mer continuaient à me taper sur les tympans et me rendaient sourd. C'est uniquement à l'armée que les symptômes ont disparu. Le grondement des tanks et une seule canonnade suffirent pour remettre le système en ordre. Hanayona voulait le toucher, lui demander pardon, lui demander « Pourquoi m'as-tu toujours dit « Mon petit frère est mort en bas âge » au lieu de tout me raconter ?» Mais elle ne savait pas comment on traite les fractures ouvertes dans l'âme. Elle ne voulait rien toucher, comme on le fait avec des gens dont l'épine dorsale est atteinte et qu'il est interdit de bouger. Elle se rapprocha de lui sur le banc et demanda « Tu n'as jamais cherché à savoir s'il était encore vivant ?»«
Non. »
Elle ne posa pas d'autres questions. Les yeux de Yehuda semblaient sur le point de crever leurs membranes et de jaillir au dehors. Il regardait la mer comme si le petit Yossi allait en sortir tout d'un coup, armé de son seau et de sa pelle, juste à condition qu'on ne quitte pas l'eau du regard. Elle ne demanda jamais pourquoi, ni alors, ni plus tard.
« Quoi vous avoir à pleurer, Madame Hanna ?»
Johann enlaça sa patronne de son bras, sécha les larmes d'un revers de main et essuya le tout sur son tablier. « Je pleure 2 fois, Johann. Une pour quelqu'un, il est mort, et une pour Maes Mozia, qui, elle, est pas mort, et pour Deprecia, quand elle est possible chez moi. » Johann comprit ce qu'elle comprit et déclara.
« Il faut boire, Madame Hanna !»
Elle se rendit à la cuisine pour préparer du café. Hanayona roulait les franges de la nappe entre ses doigts et elle sentait qu'elle pouvait se permettre de pleurer autant qu'elle voudrait. Mais en même temps, elle se sentait la force de tarir les larmes et de les remettre à une date ultérieure. Elle pensait à ce Yossi et aux 5 années qu'il séparait de Yehuda. « Si c'est la bonne différence, alors il doit avoir mon âge. S'il est vivant, il a 77 ans. Peut-être est-il encore en vie ?» Elle ignorait quelle était la longévité des légumes, s'il continuait à grandir, si les cheveux et les ongles leur poussaient, ou si Yossi était resté de la même taille, un vieillard de 77 ans, dans un corps de 3 ans et demi. Elle n'avait jamais prêté aucune attention au sujet, et n'avait jamais rien lu sur la question. Elle n'avait aucune idée sur les processus biologiques concernant les légumes. Simona devait s'y entendre, mais elle ne lui poserait pas de questions. Elle chercherait toute seule.
Ernst frottait sa fourrure sur ses jambes froides et elle se frotta la tempe en disant
« Une seconde, une seconde !»
Elle se souvint qu'à la naissance de la troisième, Yehuda insista pour qu'on l'appelle Réhut, amitié, mais elle, elle voulait Simona. Ils disputaillèrent, chacun sur son compte à soi, et finalement on tira au sort. Elle gagna et Yehuda se résigna. Elle devait atteindre l'âge de 77 ans pour faire un et un font deux et pour rattacher le nom choisi par Yehuda à celui d'un vieux sanatorium appelé Réhut. C'était un établissement qui entretenait des légumes et les maintenait en vie jusqu'à leur extinction. Comment n'avait-elle jamais eu l'idée de lui demander pourquoi il leur faisait un don chaque année et pourquoi des sommes si importantes? Comment n'avait-elle pas compris le lien qui le réunissait à cette institution? Johanna posa sur la table une tasse de café et un morceau de gâteau. Hanna but une gorgée, mais ne toucha pas à la pâtisserie. Malgré tout ce qu'elle s'était juré à elle-même et contre sa volonté, les morts frappaient à la porte de son cœur et, à son grand détriment, elle leur ouvrait. « Viens, Herz, viens chez Hanna !» Elle ramassa l'animal et le posa sur ses genoux, dans l'espoir que cette vie chasserait la mort. Elle détachait des petits morceaux de gâteau qu'elle lui donnait, la vie chassant toujours la mort. « Tu ne sais rien de tes frères, hein, Herz ? Chez vous, ça n'existe pas, les légumes, hein ? On n'entretient pas les lièvres dans le coma, n'est-ce pas ? Chez vous, il n'y a pas de sana. Ceux qui meurent sont morts, voilà tout. » La langue du lièvre lui rinçait la main. Il léchait et ramassait les miettes en silence. Hanna Yona remarqua que les rayons du soleil qui avaient illuminé le front de Tamar venaient maintenant sur les pieds de la chaise. Une mare de lumière inondait maintenant le parquet. Le soleil avançait, le temps passait et les jours s'en allaient. Bien qu'elle eût décidé de vivre au jour le jour et de ne jamais fouiller dans les archives de son âme, les registres s'ouvraient devant elle malgré elle. Elle se sentit une amère languitude pour Yehuda et aussi pour ce Yossi qu'elle n'avait pas connu et surtout pour ces jours où elle aurait encore pu réparer quelque chose. Elle voulait retourner à cette mère, s'asseoir avec lui sur ce bout de mouchoir, souffler sur ses souliers et en chasser les grains de sable. Elle voulait jurer avec lui et ne jamais pardonner à cette eau immense. Elle ne comprenait pas comment ce qui était révolu demeurait encore inachevé, comment ce qui est mort n'est jamais mort et comment cette idée de ne jamais revenir en arrière ne valait rien. Elle caressa la fourrure du lièvre et déclara « Stop, Hanna, c'est fini, le passé est révolu. Chez vous autres, ça n'existe pas, revenir en arrière. Hein, Herz ?» Elle releva la tête vers Johanna. « Lundi, la semaine prochaine, nous allons à Tel Aviv. »« Qu'est-ce qu'il y a à Tel Aviv ?» demanda cette dernière en se penchant pour ramasser les miettes que le lièvre avait dispersées.
« Il y a là Hospital Réhut. Nous, aller là-bas, demander s'il y a patient Yossi. »
Johanna se redressa d'un coup à l'évocation du pays des merveilles. Elle porta les yeux sur la fenêtre et s'étonna.
« Tel Aviv ? C'est quelque chose, Tel Aviv ! J'ai jamais été. Comment nous allons ? En autobus ?
Taxi jusqu'à Centrale Station et autobus.
Lundi, oui. Alors dimanche, je vous fais frisure jolie jolie pour Tel Aviv. »
Hanna serra le lièvre contre son sein et la chaleur de l'animal lui pénétra dans les os. Elle détachait des morceaux de gâteau qu'elle mangeait elle-même ou les donnait au lièvre.
« Quel gâteau, Johanna ! Je te parie qu'une telle délicatesse, Tamar n'en a jamais eu et n'en aura jamais dans tous ses cocktails. »